ça a été un temps de décollage pour une alliance mondiale pour la construction bois, appuyée par un Woodrise Paper, comme on l'a appelé, destiné à expliquer comment et pourquoi on peut construire en bois. Et on a tenu à dresser une passerelle assez évidente entre cet événement la semaine dernière et celui-ci aujourd'hui, Agora, qui parle de grands paysages et de grands paysages en mouvement. Pourquoi, pour le dire de manière un peu bête et un peu simple, parce que construire en bois, c'est remettre la nature dans la ville. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on n'a pas dit grand-chose. En réalité, je pense qu'on parle d'un sujet bien plus profond, j'allais dire existentiel, en tout cas assez anthropologique sur la manière dont nous autres humains, on conçoit nos espaces habités, dont on conçoit nos villes. Je pense que vous quatre architectes qui êtes là, vous ne me démentirez pas, quand on construit en bois, on nous demande systématiquement « mais d'où vient le bois ?» Et je pense que c'est une excellente question, pour être honnête, qui pose un peu le paradigme du miroir écologique de chaque bâtiment et de chaque objet qui nous entoure, et qui revient à dire qu'on ne peut pas parler de construction bois sans parler également de tout ce qui se passe en amont, et notamment de la forêt, et donc nécessairement de grands paysages. Sans même parler, évidemment, des fonctions éminemment écologiques du matériau bois. On le martèlera jamais assez, ce matériau qui provient de forêts qui puisent en permanence du carbone et du CO2 et qui stocke le carbone tout au long de sa vie et qui donc contribue aussi à l'aménagement du grand paysage et même du très très grand paysage, pour paraphraser Gilles Clément, l'aménagement de notre jardin planétaire avec, je le rappelle encore une fois, la nécessité et l'urgence écologique qui est la nôtre et le message qu'on tient à faire passer qui est que si on ne développe pas massivement la construction bois, on ne tiendra pas les objectifs de la COP21 et que donc cette réalité s'impose aujourd'hui à nous. Alors cette passerelle entre ces deux événements, comment on l'a faite ? Bien principalement par quatre pavillons, totem, architecture microscopique, micro-architecture, disséminés dans Bordeaux, une devant l'hôtel de région, Jean-Jacques Soulas. Tu es architecte et enseignant à l'école d'archi de Bordeaux, c'est toi qui l'as conçu. Un autre pavillon, Mathias, tu es le fondateur de l'agence Gram. Le vôtre, vous l'avez réalisé devant le Palais des Congrès, là où précisément se tenait Woodrise. Et puis deux autres pavillons qui ont été installés sur la place Péberlan, devant l'hôtel de ville. L'un conçu par Nicolas Lenné, l'aîné de Lenné Roussel, l'agence Lenné Roussel, et l'autre conçu par un autre Nicolas, Nicolas Zizel, agence Cause, également sur la place Péberlan. Ce que je vous propose pour l'heure qui vient est de tout simplement laisser la parole à ceux qui ont le talent dans cette histoire-là, c'est-à-dire aux architectes. Jean-Jacques, présente-nous ton pavillon.
Merci. Alors, une présentation synthétique de ce travail réalisé avec les étudiants. La particularité de cette manifestation, c'est qu'elle est, je dirais, elle a été organisée prioritairement par le FCBA Bordeaux et en partenariat avec les Japonais, les homologues japonais du FCBA et les homologues canadiens. Donc, il a été décidé d'organiser ce qu'on appelle un workshop, un atelier, si vous voulez, spécifique, à l'occasion de Woodrise, qui réunirait des étudiants japonais, canadiens et français. Avec les Canadiens, ça a été un peu compliqué, ça n'a pas pu se faire, mais on a eu la chance d'accueillir 19 étudiants japonais et on a pu réaliser sur une semaine le travail que je vais vous montrer à présent. C'est quoi ? C'est le bouton du milieu ? Sur le côté. Allez, voilà, merci. Donc, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, rapidement, l'hôtel de région, quartier Mériadec à Bordeaux. Donc, on nous a, après discussion, etc., on nous a attribué un espace qui se trouve entre le socle des mâts sur lesquels on vient développer les drapeaux et puis les grands poteaux en béton préfa qui encadrent, je dirais, les façades de l'hôtel de région. Voilà, plus spécifiquement, c'est ce petit espace où on voit les voitures. Là. Donc, c'est un espace qui fait 8,50 m, un peu coincé entre les poteaux, etc. Donc, l'idée, c'était d'exprimer, Woodrise, c'est l'élévation du bois, naturellement. Donc, c'était de reprendre un peu cette idée de l'élévation en partant de la matière brute. Et cette matière s'affine peu à peu par la transformation, par le travail des hommes. Et puis, elle finit dans l'espace, par une structure très évanescente qui se développe et, voilà, et qui interroge un peu sur la façon dont elle tient en l'air. Donc, comme tout projet, naturellement, on a des contraintes. Donc, la région nous fixe les lieux d'intervention, nous spécifie voilà, quelles seront l'énergie dont on disposera, les contraintes liées à la portance du sol, etc. Donc, on fait avec. Et puis, il y a évidemment une esquisse, comme dans tout projet. Alors, l'idée initiale, c'était de reproduire une allégorie de la forêt en prenant des petits pins maritimes que l'on aurait fixés au mât sur lesquels les drapeaux sont envoyés. Non, alors ça, on nous a dit, ben non, pas possible. Non, les mâts ne pourront pas supporter les petits pins. Après, de mettre des gros blocs et de planter les pins dedans, non, pas possible. Les pins ne pourront pas mettre les gros blocs parce que voilà, le sol ne le supportera pas. Donc, vous verrez à la fin comment ça... On a essayé voilà, de faire une transposition beaucoup plus modeste, naturellement, et beaucoup moins explicite, mais néanmoins, qui symbolise cet effet de forêt. Ensuite, on a des grumes qui viennent, des grumes de pin maritime. Nous, on a travaillé avec le pin maritime, même si le périmètre de la région s'est étendu désormais, qu'on a des essences de Douglas, de chêne, de châtaignier, etc. On a fait le choix de travailler avec du pin maritime. Donc, on a une structure en pin maritime faite sur une base pentagonale, des madriers, des gros madriers qui viennent s'assembler à mi-bois, et puis un empilement comme ça de couches de pentagones. Et au sommet de ce pentagone, on trouve une étoile à cinq branches qui permet d'avoir un pentagone en réduction. Et sur cette étoile à cinq branches, on vient poser l'élément très, très aérien, très évanescent. Évidemment, il faut un plan d'installation de chantier. Donc voilà, on regarde où on va tracer, où on va tailler, où on va stocker notre bois, naturellement. Et puis, une fois que tout ça est fait, on trace notre épure sur le sol, un peu, petit peu un tracé complexe du pentagone. Surtout qu'évidemment, on ne peut pas, sauf à user 15 boîtes de crayons, on ne peut pas vraiment tracer la totalité du cercle. Donc, c'est un petit peu plus complexe, mais on y arrive. Ensuite, on procède à l'établissage des bois, à leur mise sur ligne, comme on le voit ici. Et une fois la mise sur ligne terminée, on va tracer les bois. C'est-à-dire qu'avec un procédé classique de charpente, on va reporter, si vous voulez, la trace de la pièce supérieure, par exemple, sur la pièce inférieure et vice-versa, de façon à ce qu'ensuite, quand on effectue les coupes, eh bien, on ait des coupes qui soient correctement ajustées. Donc, voilà, petit tracé, on montre aux étudiants un petit peu ce que ça donne. Et puis après, les étudiants, ben, naturellement, se prennent en main et puis ils font le boulot tout seuls. Il n'y a plus qu'à superviser, ça marche tout seul. Tu nous en diras un mot tout à l'heure. On voit ici l'étoile à cinq branches qui vient s'insérer dans le dernier niveau des pentagones empilés. Hein, donc l'assemblage, pareil. Alors je ne vous détaille pas les assemblages, peu importe. C'est tout simple. Et donc on voit... Il y a un pointeur peut-être ? Non, il n'y a pas de pointeur. Hein ? Comme ça ? Ah oui, non, attends, ça me passe les diapos. Non, mais c'est pas grave. Donc on voit bien le pentagone au centre et on va voir l'élément en tenségrité que l'on va construire en parallèle de ces opérations. On construit un élément bien particulier qui va venir prendre place sur les sommets du pentagone du centre. Alors après, voilà, les enseignants avaient fixé un peu le cadre du projet, puis après les étudiants l'ont fait évoluer, c'est normal. Donc là, il a été décidé de disposer les éléments, au lieu de les empiler bêtement, il a été décidé de leur faire opérer une petite rotation, si vous voulez, qui donne beaucoup plus de dynamisme à ce socle. Et en parallèle, donc là, on voit le troisième niveau de pentagone qui vient s'assembler. Et puis en parallèle, eh bien, un autre groupe d'étudiants travaille sur la mise en place de ce qu'on appelle un principe de tenségrité, dans lequel les barres comprimées sont en bois et toutes les barres tendues qui maintiennent l'équilibre sont constituées de câbles en acier de 4 mm de diamètre. Donc voilà, tout ça se met en place. Donc d'habitude, on le fait sur des toutes petites maquettes. C'est facile, mais quand on le fait en grandeur 1 comme ça, c'est beaucoup moins facile. On a des tensions qui sont très fortes. On avait prévu de faire 4 niveaux. On a dû s'arrêter à 3 parce qu'on commençait à avoir des tiges filetées de 10 mm qui se tordaient un peu. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas aller plus loin pour cette fois, mais on en tire bien des enseignements pour la prochaine fois. Voilà, donc les niveaux de tenségrité sont mis en place. Les câbles sont tendus à mort pour maintenir tout cela. Ensuite, tous les étudiants véhiculent la tour, je dirais, qui pour le moment était à l'horizontale, la véhicule en un autre lieu du site de levage. Et puis une folie nous a pris, on s'est dit qu'on allait pouvoir la lever nous-mêmes. Donc on l'a mise debout, ça s'est fait sans heurts, avec des haubans qui permettaient de maintenir, etc. Et puis on a quand même été prudent, donc on a demandé, voilà, ça c'est la tenségrité terminée qui a passé le week-end là, avec ses haubans prêtes à être levées. Et puis ensuite, on voit les deux éléments, le socle et la tenségrité. Et le lundi matin, on a eu le concours d'une grue qui nous a permis, en toute sécurité, de prendre l'élément avec des grandes sangles et venir le poser. On voit ici le moment où la partie supérieure évanescente là, vient se poser sur l'étoile à 5 branches et où elle va être naturellement maintenue par vissage. Et ça n'a pas bougé depuis, donc tout va bien. Les vis, c'était des vis très, très performantes là, que nous a fournies la société Wurt, et c'est des vis qui ont été vraiment extrêmement efficaces pour ces assemblages. Voilà, on voit ici l'ouvrage terminé, et je voudrais, et bien naturellement, l'équipe de réalisation, donc avec les étudiants français et japonais, leurs modestes enseignants, et la photo est prise par l'enseignant japonais, le professeur Keita Oshima, qui naturellement ne figure pas sur la photo. Voilà. Et on voit mon collègue Régis Lenormand sur le côté droit en pull gris qui a assuré tout l'encadrement de ce workshop. Tu nous dis un petit mot peut-être sur ce que vous en retenez, le plaisir de se confronter avec la matière pour de vrai, non ? Ou tout ce que tu veux.
La parole aux étudiants.
Je me présente Luana Lefort, je suis étudiante en cinquième année.
Un peu plus près du menton.
Comme ça. Comme ça, à l'école d'architecture. Et donc, ce workshop, c'était l'occasion pour une fois de vraiment construire quelque chose, utiliser la matière à échelle 1, puisqu'on a l'habitude de faire des maquettes. Là, c'était impressionnant de voir le travail et d'apprendre les techniques de charpenterie. On n'a pas vraiment l'occasion de le faire en temps normal. Voilà. Et puis, d'interagir avec les étudiants japonais aussi, c'était une super occasion. Et ça s'est très, 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 très bien passé. Et voilà, c'était super.
Et quand on parle autour de la... Quand on est ensemble autour de la matière, il n'y a pas besoin de longs discours. Comme tu l'as très bien dit, toute cette petite communauté a fonctionné à merveille, en très bonne coordination. Pas une égratignure à la fin, pas un bleu, voilà, donc tout s'est bien passé.
Merci à tous les deux. Mathias Romvos, Agence Gramme, autre lieu, autre concept, autre pavillon. Cette fois, on va au niveau du Palais des Congrès. Dis-nous les intentions qui ont été les vôtres.
Alors, si par plus grand des hasards, on peut mettre le PDF pour que ça soit plus clair.
Il arrive.
Que je sois illustré. Donc l'agence Gramme, nous, ça fait à peu près 18 ans qu'on construit en bois. Moi, je viens du milieu de la construction avant d'arriver à la projeter. Donc j'étais très content de retourner un moment avec mes vieilles godasses et de construire ça avec l'ensemble de l'agence. Donc c'est un travail qu'on a fait un peu avec toute l'agence. Donc je suis le représentant, mais c'est vraiment toute une équipe. Donc nous, on a été sages. Hein, on nous a proposé devant le Palais des Congrès. Donc on a dit super, très bien. Et l'idée était de travailler. Donc, nous, on était un peu à l'écart, on n'était pas vraiment dans le centre-ville. Et donc, on savait qu'il y avait une relation assez forte entre les Japonais et les Canadiens. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait véritablement proposer et expliquer ou démontrer ou faire un peu de pédagogie sur la construction bois. Alors, d'abord, pour avoir construit des charpentes, je rappelle que nous sommes deux histoires différentes entre le Japon et l'Europe. Nous, en Europe, on est gros, balèze, enfin, ça dépend lesquels, hein, mais je parle pour moi, par exemple, ici, à cette table. Donc, nos scies, on les pousse, on a des gros, du métal qui est assez épais, des grosses dents, donc on est fort. Au Japon, ils sont aussi très gros parfois, mais en tout cas, ils ont une technique qui est beaucoup plus intéressante, c'est qu'ils tirent. Et donc là, c'est une scie, un kataba, mais qui est une scie un peu pas spécifique, mais pour montrer que dans un détail, ils peuvent couper des choses extrêmement fines, que leurs dents sont extrêmement fines, et que donc ça modifie aussi la réflexion, la pensée, et finalement la méthode de construire. Alors, je considérais d'abord que les Canadiens étaient quand même beaucoup plus proches que nous dans le style de charpente que les Asiatiques. Donc, j'étais un peu réduit. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a mis un certain nombre de mots en évidence. Et donc, je me rappelais, pour avoir un jour monté une charpente entre deux pignons en béton, qu'on calculait nos bois et nos quantités de bois par rapport au fait que chaque personne qui passait d'un côté au pied d'un pignon, qui montait une charpente sur ses bras, devait pouvoir la porter, et que donc la construction bois était avant tout un élément qui est manuportable. Donc ça, c'est les engins de levage sont bien plus tard, et donc la réflexion sur la taille du bois est manuportable, et donc tout ce genre de choses qui sont un peu une évidence. C'est-à-dire qu'on coupe des bois, on fait un certain nombre d'éléments, mais on ne fait pas un énorme bout de bois juste parce qu'on pourrait le faire. Ce qui est une réflexion complètement différente avec le métal ou le béton, où, mis à part qu'il y a des joints de dilatation, on peut faire des éléments en béton qui sont extrêmement longs. Donc on a commencé par réfléchir à la toiture et essayer de faire un clin d'œil un petit peu au Japon, qui ont en tout cas une réflexion et une pensée par rapport à la lumière, à l'éclairage, à l'empilement. Puisqu'il y a aussi une réflexion qui est assez importante dans l'empilement en Asie, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de ranger les bois d'une manière plus ou moins différente. Donc là, j'ai mis évidemment un japonais. Alors, c'est pas la peine d'essayer. Il y a un japonais d'un côté et plutôt suisse de l'autre, donc un européen. Mais c'est pour dire que dans la superposition d'un bout de bois ou d'un stock de bois, d'un woodstock, c'était aussi de dire qu'il y a aussi une échelle de proportion. Et cette échelle de proportion, elle définit aussi ce que l'on prend dans un tronc. Dans un tronc, il y a des parties qu'on utilise, d'autres qu'on sert, par exemple, pour le rejet, de l'aubier, enfin de l'écorce qu'on met pour protéger des vieilles granges, etc. Et donc, voilà. Donc, on avait commencé à réfléchir, à se dire, quand on construit un bâtiment en bois, on construit aussi avec ce que c'est que la consommation de la matière, et puis par quelle partie on est, de quel bout de bois on parle, et puis à quel endroit on va arriver. Alors, là, j'ai récupéré un dessin qui explique à peu près grossièrement ce que tous ces bois-là fabriquent dans une charpente. Donc, j'ai refait. Donc, celui qui est dur et un peu propre, qui va prendre une poids assez importante, on l'appelle la poutre, un peu communément. Hein. Il a une dimension, disons, moyenne. Ça, c'est pour notre canot, hein, un 230-110, c'est-à-dire 23 cm par 11 de large. Enfin, ce n'est pas forcément classique, hein, mais c'est à peu près ce qu'on peut avoir. Et ça, c'est fait pour prendre des efforts horizontaux. C'est une poutre, comme on l'a en métal ou en béton. Donc évidemment, celle-là, elle est tout en bas, quasiment posée sur les murs, c'est comme pour un plancher. Et puis ensuite, on avait ce qu'on appelait des solives, donc des sections qui sont, pour notre cas à nous, qui étaient 240-120, qui étaient des sections un peu plus importantes, qui se prennent plus ou moins sur le bord du bois, mais pas trop non plus, pour pas que ça soit trop fragile. Voilà. Et donc, je monte mon système d'assemblage, hein, que vous pouvez constater. C'est-à-dire l'idée de dire que je vais assembler des bouts de bois qui sont l'histoire de la charpente et d'un toit, mais que je vais reprendre dans un modèle un petit peu occidental. C'est-à-dire que nos assemblages n'ont pas de liaison véritablement intéressante, elles sont très belles, hein, mais elles sont pas la même poésie que ce que peut avoir l'Asie, ou en tout cas le Japon. Et donc j'ai essayé de dessiner ça. Alors voilà, après, il y a le bastin, qui était un élément assez intéressant et important, hein, qui était toujours un bout de section, donc la moitié d'une seule livre, ou le quart d'un élément. Et donc voilà, qui remonte. J'arrive au chevron. Le chevron, ça, tout le monde le connaît, on est au début du toit. Donc sur le chevron, c'est la dernière partie, une des parties la plus importante, puisque c'est la dernière partie avec le demi-chevron qui sont encore du charpentier, puisque les classes se rangent par catégorie de taille de bois et de façon de travailler. Et puis on arrive au demi-chevron, hein, qui est le petit bout de chevron qui arrive en partie haute, qui est plus ou moins intéressante, mais qui est souvent les cas des charpentes qu'on utilise. Et le litho, qui est le premier élément qui maintenant est souvent posé par des charpentiers pour des raisons de maintenir des éléments de toiture, mais qui est le premier élément du couvreur. Et donc c'était la fin de la charpente. Donc voilà, donc là j'avais fabriqué à peu près mon toit, et voilà, c'était un peu un assemblage, en me disant qu'on allait fabriquer une espèce de poésie un peu plus rustre que celle qu'aurait pu faire Kengokuma, puisque j'ai montré une image de Kengokuma où tous les bois étaient rabotés, bien traités, bien taillés. Là, j'ai utilisé du bois brut de sillage, du Douglas français, de les forêts du Morvan, qu'on a acheté à Monessève, qui est le plus gros scieur français, enfin un des plus gros scieurs français. Donc voilà, donc des assemblages extrêmement simples, vissés, posés, sans gros efforts. Donc nous, on a eu la chance d'avoir le concours de Wurtz, mais on a utilisé quand même des vis de chez eux. Donc comme je vois là, j'essaie de lui faire un petit clin d'œil, et que la prochaine fois, je veux bien qu'ils nous sponsorisent aussi, parce que au kilo, ça finit par coûter cher. Enfin, bref. Donc voilà. Donc le choix était de dire que on fabriquait une toiture qui était très aérée, qu'il fallait aussi en même temps accepter le fait qu'on était au bord d'un lac, donc on peut avoir un vent quand même extrêmement fort, et que donc tout ce qu'on voulait n'était pas, on pouvait pas faire de trous, c'était strictement interdit. Sinon, on signait une décharge pour payer la dalle qu'on remettait après. Enfin, c'était pas vraiment. On a des ambiances un peu difficiles. Donc, on a posé ce bâtiment en bois. Alors, évidemment, là, je vous montre des parties du toit. Donc, on a dû faire un petit chevêtre pour faire passer l'arbre qui existait, parce qu'il fallait pas couper de branches. On était d'accord. Bien qu'on peut constater qu'il est très franchement malade, ce mûrier, et que cette branche est plus dangereuse, et que j'espère que notre pavillon va retenir cette branche qui pourrait tomber sur un cycliste. Voilà. Alors ensuite, évidemment, une fois qu'on avait fait le toit, c'était le départ de la poésie et de cette ombrière un petit peu dans laquelle les vélos passaient. On s'est posé la question, évidemment, qu'il fallait quand même le soulever. Hein. Alors ça, c'est une image de gens. Il y a un collège ou je sais pas, une école professionnelle pas loin, et donc ils viennent s'asseoir dans cette épaisseur de mur. Voilà. Donc, il fallait que donc ce l'espace noir, un peu, ce espèce de gros volume en partie basse, sert pour le cas présent, pour lester le bâtiment et l'éviter qu'il puisse se déplacer et glisser. Donc, en même temps, c'était l'occasion de faire un banc pour pouvoir s'asseoir. On a donc mis 2 tonnes 4 de chaque côté du bâtiment. Donc, on a fait une petite note de calcul pour rassurer ceux qui se posent la question de savoir si c'est bien. Donc, on a fait une petite note de calcul pour savoir si ça fonctionne et pour pas que voilà, ça s'échappe, puisqu'il peut y avoir à Bordeaux des bourrasques qui vont jusqu'à 100 km/h. Donc, bon, c'est pas encore Irma, mais c'est quand même pas mal. Et donc voilà, donc là je commence par le mur. Donc le mur, j'ai considéré que si on avait fait la poésie sur le toit, j'allais essayer de démontrer un peu pédagogie, avec un peu de pédagogie, ce qu'était un mur. Et au lieu de faire un mur un peu brutal en disant bah, c'est une paroi qui reprend des efforts dans un sens et puis des éléments qui reprennent des efforts dans l'autre sens, je vais essayer de faire un dessin de poétique là. Donc le mur est le dessin du mur est une reprise d'une peinture de Malevitch, voilà, qu'il a fait dans les années un peu début en 1818, il me semble, par là, et qui est blanc et noir, donc qui est très abstraite, et qui fabrique un espèce de où il y a des éléments verticaux en permanence et après des éléments de recoupement. J'avais considéré que ce mur-là, qui était un peu abstrait, reprenait les efforts statiques, donc les efforts vraiment verticaux. Alors, qu'est-ce que c'est quand une table, on voit qu'il y a des pieds, mais si on ne les met pas des choses qui tournent autour de ses pieds, elle risque de basculer. Donc il y avait les efforts purement statiques, du poids du toit, qui était un empilement de bois, en sachant qu'on a 3 tonnes 6 de poids de bois sur le toit. Donc ensuite, on voit ces espèces de V ou delta, enfin comme on veut, qui supportent et qui viennent reprendre les éléments au niveau des poutres. Donc là, je dis juste entre nous, la photo est retouchée. Hein. Il y a bien les potelets devant les trams, il y a bien la poubelle sur le côté, l'élément de chez Déco qui nous prévient qu'on est au Palais des Congrès. Mais là, pour l'occasion, on a essayé de faire un truc pour que ce soit un peu plus représentatif. Et donc, on a donc le mur que je vous ai présenté qui reprend les efforts un peu de poids, et puis ces éléments en V qui reprennent, eux, les éléments d'efforts au vent, donc les efforts qui pourraient être pris dans la toiture et par les murs. Et donc, du coup, le volume que je montrais à l'instant, voilà, celui-là, en fait, il est un peu abstrait parce qu'il exprime les relations physiques et la difficulté qu'un peut avoir la construction bois, enfin, en tout cas, la complexité ou la richesse, ça dépend comment on peut l'appeler, avoir une construction bois. C'est-à-dire que j'ai séparé le mur en deux et ça a fabriqué un espace un peu intermédiaire, voilà, que je trouvais aussi beau que le faire le toit. Donc voilà, je me suis un peu. Donc ça, c'est l'équipe. Donc voilà, c'était un bout de l'agence. Donc c'est aussi un peu retouché. Je suis un peu plus gros en vrai, mais là, je me suis un peu repris comme ça. Voilà, donc ça, c'était le modèle de la toiture. Et voilà. Merci.
Merci et bravo, Mathias. Alors, en à peine 10 minutes de tram, nous voilà à Place Péberlan, où là, on a deux Nicolas qui ont construit des pavillons, et notamment toi, Nicolas Lenné, agence Lenné Roussel. Si on peut changer les slides, ouais. Et voilà, dis-nous tout.
Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Lenné, un des deux associés de l'agence Lenné Roussel, donc avec Dimitri Roussel. C'est un projet qu'on a évidemment produit ensemble et qui a beaucoup mobilisé l'équipe à l'agence parce qu'on est très friands de faire des pavillons. C'est un peu nouveau, mais à l'agence, on en a fait un pour la Biennale de Lyon et là, c'est le deuxième. On est en général assez engagé maintenant dans la construction bois. Parce que c'est venu grâce au projet qu'on fait à Euratlantique, à Bordeaux-Euratlantique, avec le groupe Pichet, un projet de bureau que je vous montrerai quelques images. Et en fait, ce pavillon, il était pour nous l'occasion de montrer en quoi le bois peut être extrêmement, jouer un rôle dans l'espace public. Et je vais vous montrer en fait donc ce projet de pavillon, le projet Euratlantique et puis un troisième. En fait, je trouve que c'est les trois projets qui montrent bien les différentes échelles avec lesquelles on utilise le bois à l'agence, parce que on trouve que c'est évidemment bien de faire des pavillons, de montrer que le bois est extrêmement attractif, mais je pense que c'est très important aussi de montrer que c'est une nouvelle façon de vivre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment un mode de construction qui va, à notre avis, s'imposer dans les années futures, alors peut-être pas exclusivement, mais qui va prendre beaucoup d'importance. Donc voilà, donc ici, le pavillon, on est parti d'un tronc d'arbre, et ce qui nous amusait, c'était de dire qu'on pourrait, comme ça, d'une façon abstraite, utiliser ce dessin qui est superbe d'ailleurs, qui a été utilisé par Graham aussi de façon assez différente. Alors nous, c'est plus graphique, c'est un peu moins technique. C'est une image où on serait venu tirer le bois vers le bas. Et ce qui nous intéressait aussi sur la forme de ce bâtiment, c'était que là, on est en face du tribunal de grande instance et à côté de l'école de la magistrature, donc la place Péberlan est en haut à droite, et le pavillon fait référence avec plusieurs cercles qui sont sur le terrain. Donc on trouvait ça assez rigolo, et on a pensé qu'on pourrait faire une sorte de petite agora dans laquelle les gens pourraient, alors on est très curieux de voir là, ce qui va se passer dans ce pavillon. Est-ce que les gens vont venir parler, chanter? Enfin, on est assez fascinés par ce qui s'est passé là dans les gares SNCF. On met un piano et puis il y a des concerts qui s'improvisent, il y a des choses incroyables qui se passent. Et donc on se disait voilà, qu'un petit bâtiment comme ça pourrait éventuellement susciter quelques moments sympathiques. Et donc voilà, on a créé une sorte de petit amphithéâtre qui permet de venir s'asseoir. On a utilisé du pain des Landes pour ça. Et alors, ce qui est assez drôle avec les pavillons, moi, j'étais pas du tout habitué il y a encore 6 mois, c'est que en fait, c'est comme les autres bâtiments, c'est même encore plus compliqué de les faire valider par les bureaux d'études et voilà, ce qui est normal, hein, parce qu'il faudrait pas qu'ils tombent, hein, c'est très bien. Mais enfin, du coup, c'est très technique, quoi. On a l'impression qu'on va pouvoir faire trois palettes, et puis en fait, on rentre dans un process hyper voilà, très très technique. Et du coup, c'est assez dur de garder une forme pure avec toutes les contraintes techniques. Donc ça nous a beaucoup amusé à l'agence de le dessiner pour ça. Donc ici, ce qui nous intéressait aussi, c'est un exemple qui est en Indonésie, c'est cette facilité qu'il y a à venir dans un amphithéâtre de cette taille, dans des amphithéâtres qui sont un peu comme ça incrustés dans une montagne. Et on voulait retrouver cette facilité dans l'espace public. Et donc voilà, ici, c'est une photo de l'installation du pavillon. Alors, il est juste à côté. Hein. Je vous invite à aller le voir. Surtout que là, c'est une photo de l'installation elle-même. Du coup, en fait, la partie basse est accessible par le public. Et la partie haute, c'est juste une couverture, voilà, qui permet de couvrir l'espace et de le renfermer. Voilà, donc plus près, toute la structure est en bois. Il y a quelques éléments en métal, vous verrez un peu plus tard, parce que nous, on trouve c'est très intéressant de faire des bâtiments entièrement en bois, mais on trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir dire qu'il y a un tout petit peu de métal dedans, surtout que là, la partie métallique sera recyclée. Donc bon, voilà, ça ne nous posait pas de problème qu'il y ait certains assemblages qui soient métalliques et qui permettent d'obtenir une forme qui s'écarte de ce qu'on peut trouver en bois de façon traditionnelle. Donc ça, c'est une vue de l'intérieur. Et ici, donc, des dessins techniques qu'on a fait avec Pyrénées Charpentes, qui est la société avec laquelle on travaille sur Euratlantique et qui a eu la gentillesse de bien vouloir se pencher sur ce sujet, parce que pour eux aussi, c'était pas facile de produire ça pendant les vacances, mais ils sont vraiment... était extraordinairement professionnel et voilà, on est vraiment ravis de l'avoir fait avec eux. Ici, donc, la structure cachée du bâtiment, on a des poteaux là, qui sont représentés en rouge, qui sont en bois, bien sûr, et ensuite, on a des lames métalliques qui sont très fines, qui viennent tenir chaque marche. Tout le bâtiment est en pin des Landes, donc on a essayé d'utiliser du bois local. Ça, c'est un peu la deuxième échelle qu'on est en train de faire actuellement. Je vous le montre parce qu'on l'a montré à l'occasion de Woodrise. C'est un bâtiment qui est sur les quais de la Garonne, dans la Zac Euratlantique, qu'on fait donc avec le groupe Pichet, qui est construit en grande partie par Pyrénées Charpentes. Et dans ce bâtiment, en fait, enfin, il y a deux bâtiments, mais celui de droite, c'est celui qui nous intéresse ici, qui est donc un bâtiment en bois. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est... la construction bois, en fait, c'est un monde en soi. C'est-à-dire, c'est pas, on construit pas, on dessine pas un bâtiment comme en béton et puis hop, au dernier moment, on dit non, en fait, c'est en bois. C'est vraiment tout un process. Et là, on a mis 2 ans à vraiment rentrer avec tous les acteurs pour arriver à faire un bâtiment qui soit fait avec du pin de la région et où on a réussi à amener certaines idées qui n'étaient pas évidentes au départ. Par exemple, dans ce bâtiment-là, il n'y a pas du tout d'escalier encloisonné. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on défend. On pense qu'on ne travaille plus du tout comme avant, aujourd'hui, et on a besoin de se renseigner, de se rencontrer dans les espaces conviviaux autour du travail. On ne travaille pas que dans les plateaux de bureau. Et donc, on a un superbe escalier dans l'atrium qui est designé par Joran Briand, qui est un ami designer, et qui fera qui est au centre et qui fera un lien entre tous les étages et qui sera un lieu de rencontre. Et cet escalier ne sert pas pour l'évacuation. On a un escalier à l'extérieur qui est lui aussi ouvert, qui sert pour l'évacuation. Ici, donc, une coupe, c'est un bâtiment qui est en poteau-poutre avec des planchers qui sont des coffrages à fond perdu en bois. Et on remet 7 cm de béton pour avoir de l'inertie dans le bâtiment, dans les bâtiments... En bois, c'est un des problèmes, c'est qu'on n'a pas assez d'inertie. Et donc ici, on voit la complexité dans laquelle on rentre en dessin des architectes. Mais pour nous, c'est aussi une grande surprise avec le bois, parce que c'est le premier qu'on a construit entièrement en bois par une maison. Mais voilà, c'est quand même autre chose. C'est que, les architectes se réapproprient avec les maîtres d'ouvrage, évidemment, les entreprises. Mais enfin, disons qu'on est vraiment partie prenante de toutes les décisions dès le départ. Et ça permet de faire des bâtiments qui sont extrêmement dessinés dès le départ. Donc on a une des ambitions, c'était de laisser vraiment le bois visible à l'intérieur. Et voilà donc une photo du chantier en cours. On a aussi mis sur les façades, en fait, on aura des façades, on voit un petit peu en bas à droite, qui sont en bois. Et là, pour éviter de marquer, on les a fait pré-griser et on les a mis en panneaux relativement petits, donc très redécoupés, avec des lames d'aluminium qui viendront en perpendiculaire pour faire obstacle au soleil. Mais ça nous paraît aussi important de vraiment penser à la façon dont le bois vieillit. Et il nous a semblé là que de le redécouper, de faire des petits panneaux, ça permettait d'avoir une façon de se patiner qui sera très intéressante. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que le bois, c'est porteur de valeur. C'est-à-dire qu'on pense que ça va complètement effectivement transformer la forêt française à terme. Si on passe de 3% de construction bois à ne serait-ce que 30%, toute la chaîne va se modifier. Et ce bâtiment-là est donc construit en pin des Landes. Donc c'était vachement important pour nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas essayer de lutter contre les grands bâtiments qui vont être construits là avec du CLT, par exemple, de chez Storenso ou en Autriche. Ou d'autres concurrents étrangers, parce que les gens en France qui investissent dans le CLT nous disent « mais heureusement qu'il y a déjà un marché, heureusement qu'on a été l'acheter ailleurs, ça crée un volume de marché qui fait qu'il y a des Français qui peuvent rentrer dedans ». Donc il ne faudrait surtout pas dire « faut pas construire en CLT parce qu'il vient de l'extérieur », parce qu'à ce moment-là, ça nous condamnerait à ne pas avoir de filière en France. Et ça, on trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà.
Merci. Merci Nicolas pour cette présentation du pavillon et puis pour ce regard sur l'avenir de la filière et comme tu le dis, cette filière qui va se transformer quoi qu'il arrive et qui va aussi transformer des paysages forestiers en particulier qui sont si importants en France puisque on est quand même le pays à la fois des Vosges, des Landes, aussi de la forêt amazonienne, rappelons-le, hein, 8 millions d'hectares de forêt amazonienne sur le territoire français. Nicolas, explique-nous à quelques pas une échelle beaucoup plus petite que l'immeuble Pichet, évidemment, ton pavillon.
Alors, en fait, quand on va avoir les images, en fait, je vais faire un peu le parcours inverse de Nicolas, c'est-à-dire que je vais plutôt partir de ce qu'on fait en bois ailleurs et un peu comment est-ce qu'après rentrer un peu dans la description du pavillon. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que tout ça est extrêmement accessible en tramway, qu'on envisageait même, avant de se reprendre un TGV, d'aller se faire encore un petit apéritif sur la place Péberlan, auquel vous êtes tous cordialement invités à 19h. Voilà, je pense qu'on ira s'acheter quelques bouteilles. Parce que c'est aussi, quand on fait ce genre de petites échelles, c'est aussi extrêmement, et les deux confrères l'ont montré, c'est aussi extrêmement intéressant de voir la façon dont ces lieux sont appropriés. Alors, j'attends. Ah, mais il n'y a plus. Alors, je peux aussi parler du pavillon de Graham. ça pourrait être intéressant, cela dit, qu'on parle sur les pavillons des autres, parce que je pense qu'on dirait il y aurait d'autres types de regards qui pourraient venir dessus. Quand même, ouais, je vais dire deux mots sur ce qu'on a fait. C'est une minute de publicité qui vous est offerte par Grave.
Oui, c'est le moment ou jamais.
Bonjour, je suis architecte. J'ai travaillé une dizaine d'années chez Jourda Architectes. On faisait des bâtiments en bois, mais pour du logement. Donc effectivement, par rapport, par exemple, au projet que vous venez de présenter, qui sont des bureaux, on a eu très souvent des avis négatifs des bureaux de contrôle, des clients à construire en bois, des oppositions. Même pour l'Alpajol, construire en bois, ça a été compliqué. Est-ce que vous pensez qu'en passant par l'échelle du pavillon, on peut faire bouger les choses un petit peu, justement, sur le regard du bois, sur les... Comme il y a une publicité, enfin le pavillon vient au travers d'Agora, il y a une publicité sur les pavillons, et est-ce que ça mobilise un petit peu des gens à s'intéresser au fait que c'est compliqué de construire en bois ?
Oui, bah merci pour votre question. Oui, on pense que effectivement, ça, enfin les pavillons, bien sûr, hein, ça aide à donner une image, à donner au grand public, disons, une sensibilité là-dessus, parce que c'est très En fait, la petite échelle, elle se prend très facilement en main par le public. Je me souviens, on a montré, nous, sur Instagram ou sur des réseaux sociaux, des grands bâtiments en bois. Puis alors, les 15 lignes en dessous, c'était arrêter de couper les arbres dans la forêt. Voilà. Donc, ça, il faut aussi avoir beaucoup de pédagogie là-dessus. Et on pense, enfin, c'est ce qui était ressorti de Woodrise. Enfin, c'était le sentiment qu'on avait, c'est qu'on est vraiment à un tournant aujourd'hui. Et ce que vous, avec Jourda ou Graham, font depuis très longtemps, nous, on est un peu des nouveaux arrivants hein, dedans. Et on sent qu'il y a vraiment un vrai élan. On a beaucoup de demandes de promoteurs qui, justement, nous demandent de faire en bois, qui adhèrent à ces... Oui, oui, voilà. Exactement. Ouais. Non, mais là, je sais pas vous, mais nous, on sent qu'il y a vraiment une appétence pour ça. Et à tel point que nous, dans notre agence, on fait, je sais pas, 80% de nos projets en bois maintenant. Et je pense pas qu'on soit les seuls à être dans ce mouvement-là du tout. Les législations, oui. Bah, par exemple, c'est pour ça que le projet de Pichet à Euratlantique a été si long à faire en études. C'est qu'il a fallu faire tomber, enfin convaincre, etc. Et il est à noter que ça a été aidé par la région, par Euratlantique, et qu'ils ont, ils ont donné les moyens aussi à Pichet de pouvoir s'engager dans cette démarche.
Je propose qu'on poursuive cette conversation passionnante, effectivement, sur l'évolution des mentalités et des législations. Mais d'abord, à ton tour, Nicolas, maintenant que les visuels sont arrivés.
Ok, merci, bonjour, bonsoir presque à toutes et à tous. Donc on est une agence à Paris avec deux associés. La dame qui est au milieu est une excellente cuisinière qui malheureusement ne fait pas partie de l'agence. Mais on aimerait bien, puisque vous voyez comme on est content d'avoir mangé chez elle. On fait du bois depuis 2001. Alors on s'est toujours spécialisé de faire les bâtiments les plus remarquables. Donc on a fait la plus belle maison en bois à Soulac en 2001. Building of the Year en 2013. On va en chantier les plus hauts logements, 100% CLT de France, temporairement. Et puis comme on a perdu le concours de ce qui va devenir le plus haut bâtiment de France ou d'Europe à Bordeaux, sur Bordeaux-Atlantique, on s'est dit, bon, il faut peut-être arrêter la course à échalotes et venir sur des choses plus modestes, mais qui néanmoins soient quand même les plus grandes. Donc on a réalisé cette année les plus hauts logements, qui sont un 100% assemblage bois de Paris. Vous voyez, c'est assez modeste, puisque c'est en gros une cabane dans le camping des grands voisins qui permet de dormir à deux pour la nuit, mais qui en fait est à l'origine de la cabane. C'est quelque chose qu'on a étendu sur le pavillon qu'on a fait place Péberlan. Nous, le bois, notre porte d'entrée, ça a été le caractère sensible du matériau. Le fait que bah, du bois, on est en relation avec des arbres, avec du vivant, quelque chose qui vieillit. Et c'est vrai que ça change complètement la perspective. Je m'aperçois de plus en plus que je suis en train de devenir complètement animiste dans ma relation aux arbres, notamment à travers deux rencontres avec deux arbres bon, qui n'ont pas l'air si remarquables que ça sur les photos. Alors celui à gauche, il est sur une route en Afrique. Et en fait, ils ont été obligés que la route tourne autour de l'arbre parce que c'était impossible de l'abattre. Les machines tombaient en panne, les ouvriers étaient pris de fièvre quand ils s'en approchaient. Et au bout d'un moment, bon, ça devenait, commençait à devenir un peu grotesque de vouloir couper cet arbre. Ils ont préféré faire. Enfin, ils ont compris qu'il y avait un esprit dedans, il fallait faire le tour. Et l'autre, c'est un petit peu la même histoire sur une petite île au Japon, où donc les petites bandelettes, ça signifie que l'arbre, il y a un esprit qui habite cet arbre. Et c'est le propriétaire d'une maison où on était, qui est juste à côté, qui l'avait mis, qui remerciait en fait l'arbre de lui avoir indiqué le seul endroit de l'île où on était protégé des typhons, parce qu'en fait, c'était le plus grand arbre. Donc si cet arbre avait résisté pendant une centaine d'années en poussant, ça voulait dire que c'était un endroit protégé. La deuxième chose évidemment qui nous est amenée, c'est le caractère écologique de l'arbre. Alors comme paradoxe, je vous mets du bois qui brûle. On sait que le bois qui brûle, au pire, c'est un bilan zéro, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on va absorber tout le CO2 qui est en train de s'accumuler. Et le côté génial du bois, bah, c'est que c'est un véritable puits carbone. Donc en fait, si vous commencez à l'an zéro à construire avec 1 mètre cube de bois, 1 mètre cube de béton, le mètre cube de béton et que tous les ans, vous construisez avec 1 mètre cube de béton, vous voyez, le mètre cube de béton, bah, tous les ans, vous émettez du CO2. Par contre, le bois, vous avez déjà engrangé le bénéfice de tout ce qui a été capturé sur les 50 ans avant. Et donc, vous partez déjà à moins, je ne sais pas combien de gigatonnes de CO2. Et puis, ça, si vous replantez derrière et si vous exploitez, ou si vous exploitez correctement votre forêt, et bah, l'effet va devenir de plus en plus fou, même si vous continuez à construire en bois. Donc, en fait, plus on construit en bois, plus on absorbe de CO2, c'est magique. Et ça fait plaisir. Par contre, c'est vrai qu'il y a... Il faut aussi raisonner en filière, c'est-à-dire que quand on raisonne, c'est aussi quelque chose qu'on apprend en bois. On est dans des sociétés où tout le monde travaille de façon très séquencée, très séparée les uns des autres. En fait, pour bien travailler en bois, il faut connaître un peu tous les acteurs. Il faut s'intéresser à ceux qui sont dans la forêt, ceux qui sont en train de scier, les architectes, ceux qui vont habiter et bricoler après. Voilà, il faut être vraiment investi dedans. Et ça, c'est un travail qu'on a commencé bizarrement pas du tout en France, mais justement en Afrique, en travaillant sur les optimisations de tous ces fameux déchets de bois qu'ils étaient en train de brûler dans la forêt vierge, avec l'espoir de pouvoir en faire des maisons à très très bas coût dans des zones de la planète où la population est en train de doubler en l'espace d'une vingtaine d'années. Le troisième point qui nous passionne avec le bois, c'est le caractère artisanal. C'est quelque chose qui est vraiment relié à la main, au point que même dans cette usine ultra moderne japonaise où il y a 5 ouvriers qui se promènent en vélo, vous voyez qu'ils ont construit eux-mêmes leur mobilier. Ça reste des charpentiers. Ce n'est pas des ouvriers qui ont perdu le sens du travail de la matière. Ils sont vraiment investis dedans, mais avec des outils contemporains. Et ce qui est passionnant, c'est qu'avec ces outils contemporains, on peut retrouver des assemblages très sophistiqués, parce que tout ça, c'est des machines à commande numérique, etc., comme on a essayé de le faire, nous, sur un petit bâtiment. Et du coup, ce qui est absolument génial, c'est qu'on se retrouve avec une qualité de construction incroyable, avec des choses qui sont montées en un temps record, puisque ça, c'était un bâtiment qui a été... Enfin, la charpente a été montée en 15 jours. Et après, c'est plutôt les autres qui traînaient. Alors, tout ça nous a amené à rencontrer le FCBA, à rencontrer les Néroussel. On ne s'était pas encore rencontré avec Gras, mais bon, le bois, c'est quand même une grande famille, et on fait tous plein de choses ensemble. Et on a un peu essayé de s'y retrouver, un peu à coordonner cette histoire de volet architectural de Woodrise. Avec, vous voyez, le côté très structuré, il y a l'Académie, donc ça c'était Jean-Jacques. Agora, c'était une journée de conférence, et puis les petits pavillons. Tout ça a commencé lors d'une mission avec le FCBA et l'associé de Nicolas, où nous étions au Japon pour signer les protocoles d'accord de ce partenariat international, et où donc ça a commencé dans un karaoké à Osaka, où ça a commencé par la Marseillaise, ça s'est terminé en chantant des chansons japonaises. Le problème, c'est que le lendemain, les Japonais nous ont dit « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et là, on leur a dit très sérieusement, eh bien, et c'était quand même en décembre dernier, on a dit « Donc, il y aura des pavillons, un workshop avec des étudiants français et japonais, et des conférences avec une exposition de maquettes. » Ils ont regardé, ils ont dit « Oui. » Et là, on a su qu'on ne pouvait plus reculer. Néanmoins, on a quand même réussi à faire ça, à faire tout ça. Ça, c'est Michael Green qui est... on va dire le pape de l'architecture bois mondiale, enfin l'évangélisateur numéro un qui nous a fait le plaisir de venir. Et puis, donc, on était à la CCI pour une assez belle journée avec les maquettes amenées par des architectes japonais qui présentaient leur travail, les maquettes des étudiants de Jean-Jacques et toute une série de ping-pong, en fait, d'échanges entre architectes de Nouvelle-Aquitaine qui travaillent sur le bois, qui ne sont pas forcément connus, mais il y en a beaucoup, et d'architectes japonais de la même génération, avec l'idée, comme ça, de créer cette internationale du bois. Donc, notre pavillon, nous, on l'a fait donc place Péberlan avec des paysagistes, puisque quand même le sujet, c'était le paysage. Donc, à un moment, on n'est pas forcément très, très bon sur les questions de paysage. La première préoccupation, c'était entre Canada et Japon, donc entre des modes d'assemblage, des modes d'expression un peu traditionnels. Et puis aussi, une espèce d'obsession personnelle pour ces petits jardins japonais très enserrés, où il y a un morceau de nature comme ça qui est capturé en ville, enfin qui est protégé de la ville à l'intérieur de la maison. Et finalement, nous, on fait un peu l'inverse en mettant un morceau de forêt qui est, enfin, un jardin qui est protégé de la ville, qui se protège un petit peu de la ville avec un petit bout de forêt. Et puis des petits clins d'œil amusants à la cathédrale avec les petits effets de biais là, pour écarter l'eau sur le pavillon. Et évidemment, l'hommage à la forêt, puisque en fait, on fait un pavillon finalement totalement en circulaire, puisque c'est un pavillon qui abrite un bout de forêt qui permettra de construire d'autres pavillons. Et c'est évidemment du pain des Landes. La deuxième chose intéressante, c'est toujours cet rapport entre architecture et mobilier. C'est-à-dire, en fait, entre l'architecture où les gens ne peuvent pas faire grand-chose avec ce que nous, on produit, à part y habiter, et puis le mobilier, on peut toujours bricoler, s'adapter. Donc, un peu ce côté cabane de jardin, retrouver un peu ce plaisir de la cabane de jardin, et se demander aussi qu'est-ce que ça fait, nous, quand on fait des cabanes de jardin. Et aussi, de comment est-ce qu'avec pas grand-chose, on peut un peu changer, améliorer... hacker, comme on dit quand on est sophistiqué, des choses qui existent, et notamment cette espèce de grand banc place Péberlan, qui a été immédiatement adopté par les skateurs parce que ça fait un très bon dos pour une piste d'envol pour sauter par-dessus une poubelle. Également, plus inquiétant, risque d'être adopté par les chiens qui montent sur le banc. Donc ça, c'est les effets collatéraux de faire quelque chose de sympa. Et puis adopté par des farceurs, puisque c'est un champignon en polystyrène qui a été déposé là nuitamment. Mais c'est toujours intéressant de voir à la fois les réactions des gens qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer ici, et puis la façon de se l'approprier. On a donc également mis au point un système d'arrosage participatif avec cet entonnoir et un tube qui permet à tout le monde d'aller arroser ces merveilleuses petites mousses. Et il y a donc un mode d'emploi à disposition pour expliquer un peu la raison, puisqu'on ne peut pas non plus répondre aux demandes de tous les passants. L'élément 3 qui était vraiment très important pour nous, et comme c'est la deuxième fois qu'on le fait, c'est le côté apprendre en fabriquant, qui devient assez classique dans les études d'architecture, qu'il est moins dans les agences, où les gens dessinent à longueur de journée beaucoup de choses dont ils ne savent pas vraiment très bien exactement comment ça va être fabriqué. Donc ça, c'est la coupe du pavillon. Et donc l'idée, c'est d'utiliser les mêmes outils qu'on ferait pour faire une tour, un aéroport ou je ne sais pas quoi, pour dessiner ce pavillon. Après, avec les moyens de l'agence, donc de petites découpes laser, on commence à faire des maquettes pour vérifier si ça marche. En général, le changement d'échelle de la maquette à la grande échelle ne marche jamais, donc on commence à être un peu prudent. On teste notre système d'arrosage participatif parce que bon, on n'était pas très très sûr que ça allait marcher avec la pression. Et puis tout ça, ça part dans des fichiers numériques et on arrive à Bordeaux avec d'une part du bois qui était livré par Rolpin chez les ateliers Saint-André à Blanquefort et un mode d'emploi pour le montage. Donc c'est découpé finalement de la même façon que nous on faisait notre maquette à l'agence, sauf que ça a pris un peu d'épaisseur. Et on se retrouve donc à faire nos assemblages. Donc ça, c'est le principe d'assemblage qu'on a essayé de développer, hein, où on travaille avec des trucs un peu traditionnels, avec des coins, etc. Et avec mobilisant une petite partie de l'agence qui était descendue pour monter ça. Alors, on n'a pas beaucoup de photos, parce qu'en fait, le premier pavillon qu'on a monté, on a mis 4 jours à le monter, parce qu'on s'était complètement planté dans toutes les côtes et qu'il fallait reprendre toutes les pièces. Là, c'était plié en 2 heures, et on a juste pas eu le temps de prendre trop de photos. Donc là, la pose de la clé de voûte et de ces petits rappels d'architecture japonaise en haut, il faut le reconnaître, il y a toujours des pièces où ça ne marche pas, donc la lima bois est notre ami. Et puis les paysagistes arrivent et contemplent leur futur grand micro-paysage là pour décider un peu comment les choses vont être plantées. Alors les paysagistes, elles s'appellent PAM, donc c'est Pauline Rabin-Legal, Mélanie Ducarroir, Anne Noisel, voilà, qui travaillent parfois le plus souvent possible sur nos jardins quand on arrive à mettre un jardin dans un projet. Et c'est vraiment ça, les histoires de ce pavillon, c'est ce plaisir de dessiner, concevoir, construire, mais aussi la relation avec tous les acteurs, et vraiment on tient à les remercier, puisqu'en fait, en gros, à peu près début août, on n'était pas du tout sûr de faire le pavillon, puisqu'on n'avait pas de bois, personne pour le découper, et aucun bureau d'études pour faire la note de calcul. Mais c'est un peu le miracle de la construction bois, cette capacité de tous les acteurs à se lancer dans des projets par pur enthousiasme. Merci.
Merci Nicolas, merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive et malheureusement pas de temps pour les questions car on se fait gronder depuis déjà 5 bonnes minutes. Voilà. Merci encore.
Donc pour les questions, rendez-vous à 19h, place Péberlan.
Autour d'une coupe de champagne.
De vin de Bordeaux quand même.